Réplique, la Révolution française et la Vendée, avec Élisabeth de Fontenay. Commencé au printemps 1793, en réaction à la levée de 300 000 hommes par la Convention, l'insurrection vendéenne s'est achevée quelques mois plus tard par ces mots du général Wesserman. « Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. » Cette guerre totale est l'un des épisodes les plus noirs, les plus douloureux de la Révolution française. Parce que, écrit-elle, ce serait une trahison d'abandonner ces faits à ceux qui en revendiquent les démons identitaires et s'en veulent les héritiers naturels, Élisabeth de Fontenay, qui pense dans le tourment, leur consacre son dernier livre, « La grâce et le progrès, la Révolution française et la Vendée ». Et comme elle n'est pas historienne, mais philosophe, je voudrais lui demander d'entrée de jeu quelles leçons philosophiques et politiques elle tire de ce qu'elle appelle elle-même le crime de la Première République. Élisabeth de Fontenay.
Je crois que j'ai eu une idée fixe, c'est la détestation de l'absolu, du commencement absolu, du commencement radical, de la prétention à liquider le passé entièrement pour faire un avenir propre, non seulement meilleur, mais propre. Et c'est quelque chose de philosophique, ça. C'est la volonté de déconstruire la notion d'absolu.
C'est quelque chose de philosophique, dites-vous, mais qui vous rapproche philosophiquement d'une école qui n'est évidemment pas celle de la Révolution, mais celle de la critique de la Révolution. Nous autres modernes, nous sommes les héritiers des Lumières qui ont rendu la Révolution possible, et du romantisme, apparu aussi notamment avec Burke, qui a immédiatement, dans ses réflexions sur la Révolution française, très antérieure à la Terreur, puisqu'elles sont écrites en 1790, mis en cause la présomption des révolutionnaires, leur idée qu'ils pouvaient s'arracher à toute tradition, à toute sagesse des anciens, et fonder le monde à neuf. Et nous, nous sommes partagés, justement, entre une grande idée d'émancipation, d'arrachement, et cette autre idée venue du romantisme, à savoir que l'humanité de l'homme se découvre, non pas dans l'arrachement, mais dans l'attachement, dans la dette, dans l'inscription dans un monde. Et c'est ce double héritage qui nous fonde, mais alors ça veut dire aussi, la haine du commencement, faire droit dans notre pensée, même si nous voulons les hériter de la Révolution française, à une certaine critique de la Révolution, par-delà même la question de la Vendée.
Bien entendu, si je critique la Révolution française, c'est moins à cause des guillotinages de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de quelques aristocrates que sur ce fait très, très sensible de la Vendée, des guerres de Vendée, où est née l'idée de nation, la notion de nation, parce que c'est la Révolution française qui a inventé la nation. Et malheureusement, ça s'est fait dans le sang. La nation française est née dans le sang. Il y avait un danger, j'en parle beaucoup, il y avait un danger réel. C'était l'ennemi aux frontières. Vous avez déjà connu ça avec l'Est. Et là, avec l'Ouest, c'était d'autant plus dangereux que les Chouans, les Vendéens et quelques nobles était prêt à une jonction avec l'Angleterre. C'était vraiment une possibilité de fin pour la Révolution. Donc je suis parfaitement consciente du danger que les Vendéens et les Chouans représentaient. Mais pour autant fallait-il que, sur ordre de Westermann, charrier les Noirs, comme on le sait, à Nantes, et qu'on les extermine. Exterminer, peut-être un mot un peu fort, qu'on les extermine, comme on l'a fait.
Vous dites exterminer est peut-être un mot un peu fort, même oui. si c'est le mot employé par Westermann lui-même.
Oui.
Alors justement, ce mot, il est un peu fort parce qu'il y a une extraordinaire résonance aujourd'hui. Et j'ai dit c'était un épisode noir, cette guerre de Vendée, mais pour certains, c'est aussi un épisode prémonitoire. On a beaucoup parlé, dans une certaine historiographie, de génocide vendéen. Le terme est très souvent employé comme s'il y avait une filiation, en tout cas un éclairage du nazisme sur cet épisode. Alors, reprenez-vous ce terme à votre compte, et si vous ne le faites pas, pourquoi, Élisabeth de Fontenay ?
Il n'y a aucune similitude, pour moi, entre les événements de Vendée et la Shoah. Aucune. Parce que les Vendéens représentaient un véritable danger pour la République, et donc pour la nation. Les Juifs ne représentaient pas de danger, du moins en 1939, 1933, 1940. Ne représentait aucun danger. Et les similitudes sont extrêmement suspectes. Reinhard Schleicher, par exemple, se sert de la Shoah comme d'un moyen de comparer et d'exagérer ce qui s'est passé en Vendée. Et la Shoah, il s'en moque pas mal. C'est pas son problème, c'est pas son émotion. Alors, si j'ai été très sensible depuis toujours, depuis ma jeunesse, au drame vendéen, c'est évidemment que j'ai une sensibilité juive très forte, puisque j'ai perdu à Auschwitz 5 personnes de ma famille proche. Et ça, c'est une chose dont je me remets de moins en moins. Plus je vieillis, moins je m'en remets. Et cela dit, très tôt dans ma vie, j'ai compris qu'avec la Vendée, il y avait quelque chose de terrible qui s'était passé pour la nation et pour la République. Et je mets en cause l'idée de nation et l'idée de république. Je mets en cause avec des nuances que vous me demanderez, j'espère, de préciser. Oui. La nation est née de la Révolution française et je considère qu'il n'y a pas de politique possible s'il n'y a pas nation. Et je suis très hostile à certaines thèses d'historiens comme Benedict Anderson, qui dit que la nation est une communauté politique imaginaire qui s'invente des limites et s'invente une souveraineté. Si on part de cette définition déconstructive de la nation, il n'y a plus de politique possible. Là, je suis tout à fait opposé aux thèses de Patrick Boucheron. Mmh. L'histoire mondiale de la France, où ne figure pas le 18 juin 1940, c'est une catastrophe. Parce que la nation, c'est avant d'être identitaire, c'est l'héritage des contradictions qui nous ont faites. Et on ne peut pas se passer de cet héritage. Secondement, la République cultive l'idée d'universalisme qui vient des Lumières et qui est une arme à double tranchant parce qu'elle permet d'éliminer toutes les singularités. Je ne dis pas toutes les différences. Je suis pas du tout amateur d'une philosophie des différences, mais je suis persuadé que si l'on sacrifie la singularité d'une nation et même d'une province, ça veut dire qu'on sacrifie l'histoire des contradictions qui ont fait ce qu'elles sont, ce qu'elle est.
Mmh. Donc oui, et la République présente un danger.
Le danger d'universalisme abstrait.
Un universalisme abstrait, en même temps, elle peut être considérée, et elle s'est considérée à partir de Jules Ferry, comme l'héritière de l'histoire nationale tout entière, avec ses contradictions. Mais d'un autre côté, alors vous dites que, premièrement, on ne peut pas faire de rapprochement, de parallèle entre l'écrasement de l'insurrection vendéenne et le génocide juif, parce qu'il y a eu insurrection, et d'ailleurs une très grande cruauté aussi.
Oui,
on oublie au pire.
C'était du très côté partagé.
Du côté vendéen. D'ailleurs, on va parler de Victor Hugo tout à l'heure, mais lui-même le dit dans 93. Pas de quartier, disaient les uns. Pas de grâce, disaient les autres. C'est vrai. Alors, d'un autre côté, alors j'ai sous les yeux un livre de Jean-Noël Bréjon et de Gérard Guichetot, Nouvelle histoire des guerres de Vendée. Il y a eu, à Nantes, quand la guillotine a été dépassée, disent-ils, une tentative d'empoisonner l'air des différents dépôts avec des vapeurs de soufre.
Ouais.
Mais ça a été récusé et Carrier a trouvé que le torrent révolutionnaire du fleuve faisait appel à un autre moyen plus efficace. Donc on a noyé un grand nombre de Vendéens, femmes et enfants inclus, dans la Loire. Bien, mais moi je pense que si, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, si cet événement est prémonitoire, il annonce beaucoup moins le nazisme que le type d'éradication que les communistes ont mis en œuvre. Il y a cette phrase de Carrier, tout de même inouïe. C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres. Et ça fait penser à ce que dit Hannah Arendt dans son essai de la Révolution. La pitié prise comme ressort de la vertu s'est révélée posséder un potentiel de cruauté supérieur à celui de la cruauté elle-même. Et elle cite une pétition de la Commune de Paris. Par pitié, par amour de l'humanité, soyez inhumains. Et cette espèce de renversement, c'est-à-dire que le nazisme, c'est une manière de récuser l'idée d'humanité universelle. Nous ne sommes pas tous des semblables, et remplacés par la hiérarchie des races. Avec le communisme, on a l'idée au contraire de réaliser l'humanité universelle, et pour cela, d'éliminer les ennemis de l'humanité. Donc c'est une perversion de l'idée d'humanité dans un cas et une récusation dans l'autre. Or cette perversion, il semblerait qu'elle soit déjà à l'œuvre dans la guerre de Vendée. C'est toujours l'humanité qui est affirmée et la pitié. C'est aussi la pitié de... C'est ici ce que dit Robespierre, c'est-à-dire le tyran est rigoureux, la révolution est bienfaisante jusque dans ses crimes. Voilà, donc ce renversement, je crois qu'il annonce quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le nazisme. Élisabeth de Fontenay.
Nous sommes d'accord sur le nazisme. Maintenant, vous parlez beaucoup de la pitié. Je n'aime pas beaucoup le mot, parce que c'est le mot de Michelet. Le mot continuel de Michelet. Michelet est un homme de pitié, de grande pitié. Et ça l'a mené à ses propos sur la Vendée, tout à fait inadmissibles. C'est pourquoi j'ai fait émerger, dès le titre, le mot de grâce. Alors c'est un mot un peu dangereux, parce que la grâce est d'abord théologique. Et puis ensuite, elle est aristocratique. Ça fait beaucoup contre la grâce. Mais Je prends grâce au premier sens, faire grâce. Et des deux côtés, on a fait grâce. Si vous voulez, je vous raconterai l'histoire du marquis d'Elbé, qui était un Vendéen. Ces hommes ayant pris les Bleus, ayant fait prisonniers, étant prêts à les exécuter, leur a demandé de réciter le Notre Père. Et au moment de dire... Au moment de Notre Père, il leur a dit « Est-ce que vous êtes prêts à suivre ce que vous dites ?» À savoir, ne faites pas autrui. Il les a arrêtés. Donc les Vendéens du général d'Elbé n'ont pas exécuté les Bleus. Alors je parle très longuement du marquis de Bonchamp, qui est mon idole.
Oui. Ben oui, le marquis de Bonchamp, c'est tout à fait extraordinaire.
Ah oui,
Victor Hugo, il fait allusion, simplement.
C'est un prince.
Et il fait allusion dans le 93. C'est effectivement, alors, c'est la défaite de Cholet, une défaite pour les Vendéens. Le marquis de Bonchamp, qui est à la tête de ses troupes, est blessé.
Blessé à mort.
Il est blessé à mort. Donc, et mourant, il demande à ces hommes de relâcher tous les prisonniers.
Oui. Et enfermés à Saint-Florent-le-Vieil.
Camarades, vous m'avez obéi jusqu'à ce jour, qui est le dernier de ma vie. En qualité de votre commandant, je vous ordonne de pardonner à mes prisonniers. Si l'ordre d'un chef mourant n'a plus de pouvoir sur vous, je vous en prie au nom de l'humanité, au nom de Dieu pour lequel vous combattez. Camarades, si vous dédaignez mon ordre et ma prière, je vais me faire porter au milieu de mes prisonniers et de vous, et vos premiers coups tomberont sur moi. Et d'ailleurs, il obtient. Il fait grâce et ses prisonniers sont en effet relâchés. Et pourquoi, alors, dites-vous, c'est votre idole, Élisabeth de Fontenay?
Pour des raisons un peu troubles. D'abord parce que c'est un homme de l'Ouest et que je suis très, je ne vais pas dire enracinée, parce que je suis juive d'Odessa par ma mère. Mais je suis très attachée à l'Ouest, à ces provinces. J'ai de la famille en Mayenne, par exemple.
Et vous avez vécu dans l'Ouest, vous-même?
Un petit peu, parce que à Rouen, alors c'est pas très reluisant.
Mais, Rouen ben,
non, parce que c'est pas vraiment la Normandie. C'est pas pour moi, ça n'est pas vraiment la Normandie. La vraie Normandie, c'est la Manche et l'Eure et le Calvados.
Enfin, c'est la ville de Flaubert, quand même.
Oui, c'est la ville de Flaubert. Mais qu'est-ce que vous me posiez comme question?
Ben, je vous demandais pourquoi Bonchamp était-il votre idole, justement?
Parce que c'est un homme des Lumières.
À l'intérieur de la féodalité.
Oui, on est venu le chercher pour être à la tête des Vendéens. Il les a suivis à cheval. Ils l'ont obligé à les suivre à pied parce qu'ils avaient peur qu'ils s'enfuient à cheval. Et il a accepté, ce qui pour un noble était énorme, accepter de les suivre à pied, de descendre de son cheval et de les suivre à pied. Et puis c'est bon, ce pardon de Bonchamp, le mot de pardon est très important. Parce que c'est un mot qui renvoie à grâce. Et c'est vrai qu'il y a un poids théologique de ce mot, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas nier que c'est un mot qui me touche à cause de ça. Mmh. Et que la grâce s'oppose bien au progrès. Parce qu'elle est, sans raison.
D'où votre titre. La grâce et le progrès. La grâce et le progrès. Donc, présence de la grâce. Et puis aussi, il y a vraiment cette phrase terrible d'un révolutionnaire, Merlin de Thionville, hein, qui écrit au comité de salut public, et vous le citez, lorsqu'il a appris le geste de Bonchamp, ces lâches ennemis de la nation honte à ce qui se dit ici, épargner plus de 4000 des nôtres qu'ils tenaient prisonniers. Quelques-uns se laissaient toucher par ce trait d'incroyable hypocrisie. Je les ai pérorés et ils ont bientôt compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance aux brigands. Vous agirez sagement en ne soufflant pas mot sur une pareille indignité. Des hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves, ce n'est pas révolutionnaire. Il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. N'en parlez pas même à la Convention, cela s'oubliera comme tant d'autres choses.
Ça ressemble au communisme, tout à fait.
Oui, tout à fait. Ça ressemble au communisme. Oui. Et alors justement, pour en revenir au communisme, et peut-être aborder Victor Hugo, parce que l'un des paradoxes de votre livre philosophe, c'est que vous l'avez écrit en relisant 93 à la lumière de 93, qui est un roman, un immense roman. Mais justement, je voudrais comparer deux romans, tout de suite. Tout passe de Vassili Grossman et 93. Dans Tout passe, Vassili Grossman, qui est son roman testamentaire, dit que les communistes se conduisent comme le chirurgien dans une clinique. Ce qui caractérise ces hommes, c'est leur foi fanatique dans la toute-puissance du bistouri. Le bistouri est le grand leader philosophique du XXe siècle. Et 93, Simourdin, donc le révolutionnaire têtu, obtus, géométrique, ligne droite.
Tendre.
Tendre, oui. Mais une tendresse redoutable.
Parce que non, ça... tendre avec...
Avec Gauvin.
Infinie vis-à-vis de Gauvin.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Mais c'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'il y a des rapports familiaux dans tout ça. Le chef de l'insurrection, c'est le marquis de Nantenac, qui est l'oncle de Gauvin, ou son grand-oncle.
Le grand-oncle
de Gauvin. Et Simourdin a été le maître de Gauvin.
Dès sa plus tendre enfance.
Dès sa plus tendre enfance, effectivement. Mais Simourdin dit « La révolution a un ennemi juré, le vieux monde. Il est sans pitié pour lui, de même que le chirurgien a un ennemi juré, la gangrène, et est sans pitié pour elle. » Vous voyez, la métaphore chirurgicale, le bistouri, dans un cas comme dans l'autre. Donc là, on est vraiment... Il y a quelque chose qui approche énormément. Et vous disiez, Michelet, vous n'aimez pas qu'on c'est cette critique de la pitié chez Hannah Arendt, mais Michelet lui-même parle à propos de Robespierre d'une furie de la pitié. Ouais. Et il dit cette furie de la pitié peut les avoir conduits au pire, parce qu'il est très sévère avec la terreur, mais le reproche que vous lui faites, parce que ce livre... Ouais. Et il y a une sorte de va-et-vient entre Victor Hugo pour éclairer l'événement, parce que Victor Hugo est lui-même partagé, et Michelet qui a justifié, selon vous, l'horreur vendéenne.
Mais la pitié selon Robespierre n'a rien à voir avec la pitié selon Michelet.
Oui, c'est vrai.
Selon Michelet, c'est la pitié pour le peuple enseveli, sauf pour les Vendéens. Sauf pour les Vendéens.
Et pourquoi ce sauf pour les Vendéens?
Parce que la nation était en danger. Parce que la République était en danger. Et ça, c'est un argument imbattable. C'est vrai que la République était en danger. S'il y avait eu un débarquement anglais, vous savez, l'expédition de Quiberon pour se porter à Granville afin de recevoir le débarquement anglais, c'est quand même, ça a été un danger réel de la Révolution. Donc, si Michelet exclut les Vendéens de sa pitié pour les peuples ensevelis, c'est à cause du danger qu'ils ont représenté. Mais ça n'est pas suffisant, à mon avis. Ça n'est pas suffisant.
Oui, mais alors, Michelet parle de l'œuvre des ténèbres qui s'était accomplie par l'intime et perfide entente, ou profonde entente, de la femme et du prêtre. C'est ça qui lui fait peur en Vendée.
Oui, il y a des pages absolument saisissantes de Michelet sur les femmes qui traversent les taillis vendéens à cheval pour porter des nouvelles. C'est tout à fait extraordinaire, littérairement parlant. Mais historiquement, c'est probablement un peu exagéré.
Mais même Victor Hugo parle de la Vendée comme d'une révolte prêtre. Et cette question de l'alliance des femmes et des prêtres a obsédé la pensée républicaine très longtemps. On s'interroge beaucoup. La France était décrite par Hume déjà comme le pays des femmes, à cause d'une mixité aristocratique, mais qui se répandait dans toute la société. Et puis, dans cette France pays des femmes, les femmes ont eu le droit de vote après les femmes turques, après les femmes indiennes, seulement en 1945. Et l'une des raisons alléguées, c'est effectivement la peur d'une république qui n'était pas complètement assise, la peur des femmes qui incarnaient le conservatisme et qui risquaient d'être aux mains d'une église très hostile à la république. C'est ça, on l'oublie aujourd'hui, les luttes féministes ne peuvent pas prendre ce fait en considération, mais ça a joué, cette crainte effectivement d'une alliance, celle-là même que dénonce Michelet, entre les femmes et les prêtres, Elisabeth de Fontenay.
Les femmes sont, dit-on, plus conservatrices que les hommes. Et quant à la question des prêtres, les prêtres réfractaires étaient des résistants à leur manière. Ils refusaient de prêter serment à la Constitution. Je ne dis pas que c'était leur droit, mais on peut comprendre. Et ils ont été gravement persécutés. En particulier à Nantes, ils ont été noyés par ce moyen des bateaux à fond plat. C'est un détail effroyable. Ils flottaient, vous savez, à Nantes. On a vidé des prisons où il y avait des prêtres, des prostituées, des Vendéens, des chouans. Et tout ce monde-là remontait la Loire et flottait. Oui. Les Vendéens, les gens de Nantes voyaient des corps flotter. C'est un détail absolument terrible. Et Je ne défends pas les réfractaires, les prêtres réfractaires, encore que pour avoir habité dans des maisons où il y avait la cachette du prêtre, J'ai peut-être un peu mieux compris de quoi il retournait, mais c'est vrai que l'Église a été la grande opposition
à
la Révolution et à la République.
Et à la République. D'où aussi, sans doute, la crainte des républicains.
Ah oui,
vis-à-vis
oui,
de l'Église et des relais que celle-ci pouvait avoir.
Oui, oui.
Mais alors, justement, venons-en maintenant directement à 93, Élisabeth de Fontenay. Pourquoi avoir choisi ce livre entre tous pour revenir sur cet épisode? Pourquoi un roman et pourquoi ce roman de Victor Hugo,
Élisabeth de Fontenay? C'est très personnel. C'est un héritage de mon père. Qui tenait tellement à ce livre qu'il avait caché dans un... Il avait une très grande bibliothèque, il avait caché ce livre dans un secrétaire, dans une autre pièce que sa bibliothèque. Il m'en lisait quelquefois des pages. De même qu'il me lisait des pages de Michelet, puisqu'il était très républicain, mon père. Et il était complètement... comment vous dire, j'héritais de ça, cette zone un peu grise, d'être partagé entre la grâce et le progrès. Et entre Gauvin, capable de mériter la guillotine, parce qu'il a sauvé les enfants, condamné par les Bleus, et le progrès qui, en principe, aplanit les chemins de l'histoire, et dans le sens de la positivité, de la pleine positivité. Et ce livre, j'ai une passion pour ce livre, voilà, c'est, j'ai l'impression de lire, de me lire, voilà.
De vous lire. Oui, mais alors, vous dites la grâce avec toutes ses connotations théologiques. Et là, je m'interroge.
Et aristocratique.
Et aristocratique. Mais là, je m'interroge.
Mais surtout le sens de faire grâce.
Faire grâce.
C'est-à-dire, comme ils le disent, pardonner, ce qui revient à la théologie.
Alors oui, alors, il est vrai...
Je vous en pardon, le Notre Père m'est sorti de l'esprit au moment où je vous parlais du marquis d'Albé.
Oui.
Quand les hommes récitent le Notre Père, pardonnez-nous offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il leur dit, vous êtes sûr que vous êtes d'accord avec ce que vous dites là? Vous croyez à ce que vous dites là?
Ah c'est ça, oui d'accord.
C'est...
Oui, alors, mais d'un autre côté, que se passe-t-il? Lantenac, donc, vicomte de Fontenay, il faut le dire, est le chef de l'insurrection vendéenne. Il est extraordinairement cruel, donc comme le camp d'en face. Et puis, il est assiégé, à la tourbe, par des troupes que dirige Gauvin, avec Simourdin en surplomb. Et Lantenac trouve le moyen de s'évader à un moment où tout semble perdu. Et il a un instant de joie pure. Et il est là dans la forêt, il vit, il est heureux de vivre tout d'un coup de cette persévérance vitale qui soudain lui est accordée. Et il voit alors un incendie qui se déclare dans la tourbe, trois enfants risquent de périr de cet incendie. Et alors, en dépit de lui-même, il revient sur ses pas. Il revient sur ses pas pour sauver ses enfants, ce qu'il fait. Et donc, il est fait prisonnier. Et à ce moment-là, Gauvin, ébloui par ce geste, se dit qu'il ne peut pas lui-même être en deçà du geste de l'ennemi. Donc, il décide... Effectivement, et c'était un véritable sacrifice pour lui, parce qu'il savait bien ce qu'il risquait, il décide de libérer Lantenac. Mais Lantenac, à ce moment-là, il arrive quelque chose, dans la description décrite par Victor Hugo, c'est-à-dire l'éthique en lui surgit comme un événement. C'est un moment lévinassien, si vous voulez. C'est-à-dire, il ne veut rien d'autre que persévérer dans son être, et tout d'un coup, sous l'effet de cette vulnérabilité, de ses enfants complètement sans défense, la vie des autres, de ses autres, compte plus que la sienne. Et c'est un peu le même événement qui arrive à Gauvin. Donc, pourquoi parler de théologie? Pourquoi parler de grâce? Est-ce qu'il ne s'agit pas, effectivement, de la morale, le moral elle-même, de l'éthique comme événement? C'est-à-dire ce moment où le pour autrui l'emporte sur la persévérance dans l'être, au détriment même de l'individu et de sa volonté première.
Ce que vous dites est très beau, mais si vous avez parlé de Lévinas, vous avez référé à Dieu, au tressaillement dans le je ne sais plus le mot hébraïque. Haramot.
Je ne saurais pas vous dire. Mais je crois que c'est ça.
Dieu éprouve vis-à-vis des hommes un tressaillement d'entrailles.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, c'est ça, c'est beaucoup plus beau que la pitié. Mais si vous citez Lévinas, Lévinas n'est pas un moraliste.
Non.
Voilà.
C'est pas un moraliste, mais tous sont un moraliste, mais justement parce qu'il décrit l'éthique, non pas comme une prescription, mais comme un événement.
Oui.
Et c'est cet événement-là qui surgit deux fois dans 93.
Oui. Mais cet événement vient du passé. Si on est capable de voir cet événement, de le percevoir et d'en tenir compte, c'est qu'il y a tout un passé, je ne vais pas dire aristocratique,
parce peut-être. Que
ce serait trop facile et trop compromettant pour moi, mais tout un passé religieux. Tout un passé religieux.
Peut-être.
Dans lequel Lévinas baigne aussi.
Oui, mais d'un autre côté, son discours, sa description de l'événement n'est jamais directement religieuse. Bien, c'est le passage à l'autre, c'est-à-dire une manière de relâcher ma tension sur mon existé en guise de souci pour soi, ou l'existé d'autrui, mais plus important que le mien. Le bien, c'est ce surplus d'importance d'autrui sur moi. Et il dit l'humain, c'est cette possibilité de sainteté. Alors il va jusqu'à parler de sainteté, mais dans un horizon qui est phénoménologique, si j'ose dire.
En tout cas, ce rattachement de Lantenac à Lévinas me touche énormément, même si je le discute.
Très bien. Alors, une autre chose aussi, il me semble que, là encore, pour ce rapport qu'on peut faire entre la Vendée et le XXe siècle, l'État moderne est né du traumatisme des guerres civiles religieuses. Hobbes et ses successeurs, et Pascal disant le plus grand des maux, c'est la guerre civile. Et que s'est-il passé? Alors la Vendée a été une guerre civile atroce. Et que s'est-il passé au XXe siècle? La guerre civile est devenue le paradigme de la politique. Elle est revenue même comme paradigme. Je citerai Trotsky, « La guerre civile, forme culminante de la lutte de classe, abolit tous les liens moraux, entre les classes ennemies, leur morale est la nôtre. Tous les liens moraux. Et Lénine, seuls les combats acharnés, à savoir la guerre civile, peuvent affranchir l'humanité du joug du capital. » Donc tout d'un coup, c'est non seulement la formule de Clausewitz qui se renverse, la politique c'est la guerre par d'autres moyens, mais c'est pas n'importe quelle guerre. C'est la guerre civile, c'est-à-dire la guerre où tout est permis. Le droit public européen, c'est Carl Schmitt qui le dit, était fondé sur l'idée « aliud et hostis, aliud rebellis ». L'ennemi et le rebelle, ce n'est pas la même chose. Là, tout d'un coup, l'ennemi devient le brigand. Le brigand. Et contre le brigand, évidemment, il n'y a pas de quartier. Donc là aussi, on se dit que avec la guerre de Vendée annonce quelque chose, et quelque chose de terrible, dont nous sommes sortis aujourd'hui. Espérons-le.
Oui, c'était... Moi, je suis... Vous savez que je suis obstinément de gauche, même si nous ne sommes plus très nombreux à être sur les positions qui sont les miennes. Mais je crois que la guerre civile et la lutte des classes, ce n'est pas la même chose. Même si Trotsky le dit, il a tort de le dire. La lutte des classes, ça, c'est une chose en soi. C'est une chose qui mérite d'être analysée pour elle-même. Et voilà.
Oui, vous avez raison. Mais... pour les communistes, la guerre civile, c'était le parachèvement de la lutte des classes. Alors bien entendu, il faut pas dire. Donc toute lutte des classes doit être déconsidérée au nom de cette préemption de la lutte des classes par la guerre civile. Mais c'est arrivé. Et là, évidemment, on ne pouvait pas considérer l'idée qu'il puisse avoir un justus hostis, un ennemi juste, un ennemi pour lequel valent les conventions du droit, les conventions du... Non, c'était pas possible. Et donc, l'extermination devenait un devoir si l'ennemi est un brigand.
Brigand était un mot gentil.
Presque.
Parce que ce qui me frappe, c'est l'animalisation des Vendéens. Oui. C'est ça qui les rend proches jusqu'à un certain point des nazis. Et...
Oui, c'est d'ailleurs ce que dit le gentil Camille Desmoulins.
Hein. Oui.
C'était Moulins, et vous le citez, je crois.
Oui.
Qui dit ce sont des animaux à face humaine.
Voilà.
Oui, effectivement.
Voilà. Et ça, c'est très, très grave. Considérer les ennemis comme des animaux. Leur faire la chasse et non pas leur faire la guerre. Vous savez ce que je pense? Des animaux.
Oui.
Je pense que tout le mal vient de là, de notre rapport aux animaux, de notre mauvais rapport aux animaux. Mais enfin, tout de même, ces gens-là ont commis un crime irréparable en considérant leurs ennemis, de classe ou pas de classe, leurs ennemis, comme les animaux, en les animalisant.
En les animalisant.
En les bestialisant.
Oui, en les bestialisant, et en effet, de toute façon, ça fait penser au nazisme, mais ça fait penser à certaines injures en vigueur dans les années 50, de l'autre côté de l'échiquier politique, vipère lubrique, hyène dactylographe. Ça, c'était... Bon, évidemment, ça restait sur le terrain de l'insulte, mais enfin, c'était une animalisation de l'adversaire.
Mais c'est tellement grotesque.
Oui.
On ne peut qu'en rire.
On ne peut qu'en rire, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, ça a existé. Alors, venons-en maintenant à un auteur que vous citez de manière très critique. Vous réconciliez avec Burke, d'une certaine manière, ses réflexions sur la Révolution française, qui sont en effet une œuvre d'une très très grande profondeur. En revanche, vous avez un compte à régler avec Tocqueville. Tocqueville, l'auteur de l'Ancien Régime et la Révolution, et de la démocratie en Amérique. Alors, que reprochez-vous à Tocqueville, Isabelle de Fontenay?
D'abord, j'ai beaucoup de tendresse pour Tocqueville.
Ah.
C'est un pays, comme on dit en argot. Et c'est un homme de Valogne, il était député de Valogne, qui est la ville de Barbadroville. Vous voyez, j'ai beaucoup d'acquaintance avec tout ça. Mais Tocqueville, je pense, d'abord, premièrement, a fait une énorme erreur en disant que la Révolution avait été inutile et que l'Ancien Régime se serait dissous de toute façon, un jour ou l'autre. Et alors que je suis acharnée contre l'idolâtrie du commencement, contre la radicalité du commencement, contre l'absolu du commencement, je ne peux pas être d'accord avec l'idée que la Révolution aurait pu ne pas avoir lieu. Voilà.
Alors, je vais essayer...
C'est le premier point.
Alors, je vais essayer de répondre... À ce premier point, Tocqueville est le penseur de la démocratie, mais surtout du mouvement démocratique, dans ce qu'il a de salitaire, de providentiel, dit-il, et aussi de dangereux.
Oui.
L'illimitation démocratique. Donc il existe pour lui une révolution démocratique qui est à l'œuvre depuis au moins le début du XVIe siècle, depuis la Renaissance. Et la révolution démocratique, c'est l'élargissement de l'idée et même du sentiment du semblable. Donc la société aristocratique ne s'effondre pas, mais son principe ne tient plus, le principe hiérarchique. Il est remplacé peu à peu par le principe égalitaire, ce que la révolution française vient couronner. Mais c'est une révolution comme processus qui l'oppose éventuellement à la Révolution comme événement.
Couronner d'un mot de trop.
Non. Non. Je le défendrai jusqu'au bout.
Je dirais précipité.
Précipité, mais quand même. Parce que la Révolution française a ce mérite extraordinaire, selon Tocqueville, qui s'oppose ici totalement à Benjamin Constant, de remettre la liberté des anciens, participation au pouvoir collectif, au goût du jour. Et je voudrais vous lire quand même une citation qui m'a toujours ému chez Tocqueville. « Je ne crois pas qu'à aucun moment de l'histoire, on ait vu sur la Terre un pareil nombre d'hommes si sincèrement oublieux de leurs intérêts, si absorbés dans la contemplation d'un grand dessein, si résolus à hasarder ce que les hommes ont de plus cher dans la vie, faire effort sur eux-mêmes et s'élever au-dessus des petites passions de leur cœur. » Un grand moment de désintéressement qui est d'autant plus cher à Tocqueville que des hommes rivés à leurs petites passions, c'est précisément pour lui le grand danger de la démocratie. Parce qu'il peut mener à une sorte de nouveau despotisme, Élisabeth de Fontenay.
Mais c'est un très beau texte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est oui. Magnifique.
Donc il méritait peut-être.
C'est un texte contre l'intérêt particulier.
Oui.
Avec lequel je ne voudrais pas qu'on confonde la singularité.
Non, c'est vrai. Bien sûr, lui-même ne le confond pas. Voilà. Lui-même ne le confond pas, mais c'est une sorte. Ça témoigne de son inquiétude, si vous voulez. Je veux imaginer, dit-il, dans la démocratie en Amérique, sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Donc, cette idée de sortir de soi, justement, cette idée d'un élargissement par la politique, pour Tocqueville, est absolument capitale, et il la voit à l'œuvre, sinon en 93, du moins en 89, quand même. Voilà pourquoi, moi, je voudrais l'arracher à votre critique, d'autant plus que vous terminez le paragraphe sur Tocqueville par une citation sur l'Algérie, et une citation effectivement assez terrible, où Tocqueville approuve, semble approuver les massacres qui se déroulent en Algérie, mais c'est une manière de dire...
Il était contre l'armée en Algérie, cela dit.
Oui, mais juste...
Et contre l'esclavage.
Il était contre l'esclavage, oui. Mais quand vous terminez sur cette situation, on ne termine pas.
C'est un divertissement philosophique où je mélange Descartes, oui. Marx.
C'est vrai.
Tocqueville et Burke.
Mais c'est pas une manière de dire que à l'américaine, il faut rejeter Tocqueville et cesser de le lire, quand même.
C'est une façon pour moi de me positionner une fois de plus à gauche en critiquant le libéralisme.
Ah oui.
Votre libéralisme, à la quelconque.
Oui, mais enfin, c'est pas très libéral, les propos sur la Révolution française et sur la vie publique, etc., le désintéressement.
Non, mais enfin, le libéralisme de Tocqueville a donné lieu à des propos terribles sur la colonisation. Voilà.
Ah oui. Oui, mais on peut chercher noise à tous les auteurs, si vous voulez.
Non.
Les propos terribles de Marx sur les Polonais.
Marx, c'est autre chose. Oui. Tocqueville, c'est le libéral. C'est le libéral.
Oui, mais c'est aussi, je crois, Élisabeth de Fontenay, le penseur de la démocratie dont nous avons besoin pour comprendre ce qui nous arrive. Voilà pourquoi je ne suis pas prêt à le lâcher.
Alors, je vais vous dire, je suis irrité. Par Tocqueville, quand par ailleurs j'aime beaucoup, je l'ai dit, humainement, parce que cet aristocrate châtelain qui est devenu magistrat, ça a de la classe, ça a beaucoup de classe à mes yeux.
Mais vous avez de l'affection pour Tocqueville, mais vous gardez quand même une réticence forte, parce que
je vais vous dire pourquoi. Et ça vous concerne très personnellement. C'est que je n'aime pas que des gens comme François Furet soient passés du communisme à Tocqueville. Je trouve ça misérable. Ce tournant énorme, ce tournant à 80 degrés, à 90 degrés. Inexplicable pour moi.
Mais il n'est pas le seul.
Oui, je sais bien, il est accompagné de beaucoup de gens, dont vous qui êtes beaucoup plus jeune, mais dont vous.
Oui, mais j'ai fait ce tournant, bien sûr, parce que je pense que...
Vous n'avez jamais été marxiste.
Oh, si, mais dans une jeunesse lointaine, et c'est donc un marxisme sans doute superficiel. Mais si, j'ai même beaucoup lu Marx. Mon premier article, c'était Le fil rouge du travail abstrait, une lecture des Gondrisses de Marx, qui a été remarquée par Georges Samprin. Donc, j'avais publié en 1974, dans la revue Critique, si, mais il me semble que, comme penseur de la modernité, et de la modernité démocratique, Tocqueville est peut-être plus profond que Marx. Voilà ce que je pourrais vous opposer. Mais justement, pour élargir la question, vous tenez beaucoup, tout au long de ce livre, à vous démarquer de l'extrême droite, qui s'est emparé justement de la guerre de Vendée, et pas seulement d'extrême droite, parce que vous dites que la situation française actuelle, hein, cette fracture française dont on vient de témoigner encore la décapitation de Samuel Paty, vous laisse dans un état de désolation, et vous ne voulez pas que cela soit stigmatisé comme une pulsion droitière. Alors pourquoi parler de stigmatiser ? Et face à ce que la France, la menace qui pèse aujourd'hui sur notre nation, et pas seulement sur notre société, est-ce que cette opposition de la droite et de la gauche ne devient pas secondaire ? Il y a une nation qui est attaquée, une nation menacée, une nation qui a des ennemis, et cette nation, bon ben voilà, il faut qu'elle trouve le moyen de s'unir pour répondre, s'il en est encore temps, à cette inimitié. Alors, pourquoi toujours vouloir se démarquer ?
Alain Pellegrin-Croce, vous n'êtes pas en train de justifier le Front National ?
Non, mais je justifie.
J'espère.
Peu m'importe en l'occurrence. Les
élections vont avoir lieu.
Je dis simplement...
Les élections vont avoir lieu.
Oui, mais le vrai problème aujourd'hui que connaît la France, cette désolation dont vous parlez, ces attaques constantes contre la laïcité, la République, la nation, la civilisation française, eh bien, ce n'est pas le Rassemblement National qui en est l'incarnation. Donc, et la question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce que nous pouvons présenter comme monde commun, face, comme nation. Face à cela, et tant qu'on mettra le clivage droite-gauche au-dessus de tout, je crois qu'on ne sera pas, qu'on ne prendra pas la mesure du problème et du drame dans lequel nous sommes plongés, Élisabeth de Fontenay.
La nation, comme république et comme démocratie sociale, je suis tout à fait de ce côté-là. Maintenant, je pense qu'il est un certain nombre de problèmes, en particulier notre désunion fondamentale. Vous savez, j'ai été professeur de philosophie à l'université, j'ai connu déjà, dans les années où j'enseignais, des garçons qui s'opposaient à mes propos, qui étaient très raisonnables, qui étaient comme toujours des centre-gauche, des garçons musulmans, qui mettait en cause ce que je disais. J'ai connu ça de façon très feutrée à la Sorbonne et à Paris. Mais je reste absolument persuadé que la nation, ça n'empêche pas l'Europe.
Non.
Et les Anglais ont probablement eu gravement tort, de ne pas signer ce deal.
Bien sûr.
Mais la nation est le cadre, je ne vais pas dire naturel, parce que je déteste le naturel, mais le cadre légitime, le cadre fondé par l'histoire. Non, on va parler du code et de l'histoire. Notre histoire, notre code, c'est aussi notre histoire. Et notre histoire, c'est notre code.
Voilà. Oui, bien sûr.
Voilà, je ne sors pas de là.
Mais moi non plus. Mais alors justement, l'Europe, l'Europe est aussi attaquée, menacée que la France. Ouais. L'Europe en tant que civilisation. Ouais, et mais... cette civilisation a engendré le clivage droite-gauche. Ce clivage est en quelque sorte notre patrimoine commun que nous devons défendre en tant que patrimoine face à ce qu'il attaque, à ce qu'il menace aujourd'hui. Alors que si nous continuons à faire de cette opposition, alors là, pour le coup, un absolu, encore une fois, nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur de ce qui nous arrive. C'est ça que j'essaye de dire. Et ça vaut aussi bien pour l'Europe que pour la France, si tant est que l'Europe veuille accepte de se concevoir justement comme une civilisation et pas simplement comme un ensemble de normes juridiques destinées encore à fragiliser cette civilisation. Elisabeth de Fontenay.
Vous parlez de civilisation, ça n'a rien à voir pour moi avec la nation. Voilà. C'est rien à voir. Un peu à voir, bien sûr. Mais en faisant intervenir l'Europe et la civilisation européenne, je ne marche plus avec vous. Alors que sur la nation, je crois que je marche jusqu'à un certain point avec vous.
Bon, très bien. On termine. C'est une très bonne conclusion, Elisabeth de Fontenay. Nous marchons partiellement ensemble et je dois dire que j'ai lu avec passion votre livre « La grâce et le progrès, réflexion sur la Révolution française et la Vendée ». Il est publié aux éditions Stock. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'amour toujours ». Mes invités sont Belinda Cannon et Patrick Lapeyre. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Éric Villenfin, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.